Voilà, bonjour, rebonjour, bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont les habitués de nos séances et à ceux qui sont des nôtres pour la première fois, que je salue. Cette séance-ci est un petit peu particulière parce qu'en un certain sens, c'est la dernière d'un premier tout, puisque depuis le début de ce séminaire au mois d'octobre, Nous sommes concentrés de façon très attentive et assez serrée sur des problèmes concernant le théâtre en général et même plus précisément concernant le jeu de l'acteur. Problème très particulier que nous repréciserons, que nous reformulerons sans doute dans le cours de cette séance. Peut-être à peu près à mi-parcours comme d'habitude. Et il est probable que ce cycle qui a comporté un assez grand nombre de rencontres, je crois 8 ou 9, je ne sais plus exactement. D'abord plutôt avec des universitaires qui venaient nous apporter leur savoir sur des questions historiques, concernant l'histoire de ce rapport au théâtre que nous interrogeons, et plus récemment plutôt avec des praticiens, à peu près 4 et 4 séances, si ma mémoire est bonne, ou 5 et 4. Bien, ce premier cycle touche peut-être à son terme. En effet, ce qui était prévu initialement, à propos de ce séminaire, avec Bernard Stiegler, qui dirige l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, dans lequel cette activité prend place, ce qui était prévu avec Bernard Stiegler, qui a créé récemment et qui dirige cet institut, c'était que ce séminaire était à penser comme une sorte de préparation à un colloque qui aura lieu au mois de novembre prochain, un colloque qui concerne le jugement, la question du jugement. Et cette question n'est pas du tout à entendre dans un sens qui concerne seulement le théâtre, et donc encore moins qui concernerait spécialement les acteurs. C'est une réflexion d'ensemble qui est assez au centre des préoccupations de l'IRI, et qui est que nous avons abordé à notre façon, une façon que beaucoup connaissent, que je ne vais pas rappeler ici dans le détail, mais on en reparlera. Nous nous sommes intéressés au théâtre et au jugement des acteurs, à la faculté de juger, qui s'exerce peut-être dans le jeu, que nous avons appelé par jeu de mots la faculté de jouer. À cette faculté de juger, nous nous sommes intéressés à propos précisément du jeu de comédien et de la façon dont elle s'exerce dans le jeu des acteurs. Voilà. Il était prévu initialement donc que cette année de séminaire allait s'ouvrir progressivement sur des questions qui ne concernaient plus seulement le théâtre. Nous avions l'idée d'interroger aussi des gens sur la question du jugement, des gens à partir de toute autre sorte d'activités. On pensait à des juristes, on pensait à des scientifiques, on pensait à des... Voilà. Donc il reste 4 séances à notre séminaire après une assez longue interruption due au jeu des vacances. Donc on va avoir un moment d'interruption assez marqué là, et on reprendra après les vacances de printemps pour un cycle de 4 séances. On pensait vous annoncer aujourd'hui au moins la façon dont ces 4 séances vont se déclencher. Bon, voilà. Et puis on n'est pas encore en mesure de le faire. On le fera par ordinateur comme d'habitude. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est probable que nous allons essayer de respecter ce souhait de partir de ce que nous nous sommes dit pour peut-être éclairer d'autres questions qui ne sont pas seulement spécifiquement liées à au théâtre. Mais enfin, qui resteront dans un certain lien avec lui, bien sûr. Et ça nous conduira à un colloque qui devrait avoir lieu autour du 10 novembre et dont, aux dernières nouvelles, il aurait lieu de façon un peu inattendue, mais pas tant que ça, à Rennes, en co-organisation avec le Théâtre National de Bretagne, avec lequel moi-même je collabore depuis de nombreuses années, souvent au mois de novembre, parce qu'ils ont un festival qui s'appelle Mettre en scène, qui est un festival assez tonique, assez vif. Et ça fait depuis au moins 2000 ou 2001 que j'y vais pour ma part très régulièrement. Et puis Bernard Stiegler, de son côté, a collaboré dans les deux dernières années. Ça nous a d'ailleurs amené à des publications communes depuis 2 ans, et en particulier à un livre que nous avons co-signé ensemble avec Bernard Stiegler et Jean-Christophe Bailly tout récemment, qui était fait dans ce cadre. Donc, il semble bien, ça peut encore avoir des rebondissements, mais il semble bien que ce colloque va prendre lieu en collaboration étroite avec le Théâtre National de Bretagne, et qu'il aura lieu à Rennes. Et donc dans ce contexte, dans ce cadre, nous poursuivrions cette préparation à partir de fin avril, en l'élargissant un peu. Bon, alors nous en sommes encore là pour l'instant tout à fait au théâtre et au jeu. Et donc on reçoit aujourd'hui Bernard Bloch, que je salue. Bernard Bloch, c'est assez particulier pour moi de le recevoir ici, c'est un de mes plus vieux et mes plus chers amis, une sorte de fraternité qui nous lie depuis extrêmement longtemps et qui ne s'est jamais démenti, et qui a été par moments investi en commun dans des actions de théâtre qui étaient communes, et par moments dans toute autre chose, dans un regard tout à fait extérieur et au théâtre. Donc la venue de Bernard est dans mon esprit, la façon dont j'ai essayé de l'imaginer ici. J'en profite pour dire, j'ai peur de l'oublier, que le coordinateur de notre séminaire, très cher et très éminent Julien Abriel, passe le CAPES aujourd'hui, et que c'est donc la seule séance où il ne sera pas des nôtres, je pense, autant qu'on puisse jurer de ces choses, mais donc il ne peut pas être là. Et j'en profite pour dire aussi que Bernard Stiegler, lui, ne peut pas être là parce que depuis que nous sommes passés au lundi, l'horaire lui crée une difficulté, et que probablement d'ailleurs les quatre dernières séances auront bien lieu le lundi après-midi, mais non pas à 2h30, mais à 1h30. Il faudra qu'on vous redise tout ça par les moyens habituels. Voilà. Donc, quand on a pensé avec Julien, et en réfléchissant à ça, quand on a pensé à discuter avec Bernard aujourd'hui, c'était à partir d'une préoccupation double. La première préoccupation, c'est que Bernard est à l'initiative, à la fois à l'initiative, à toutes sortes sur toutes sortes de plans d'ailleurs, d'un spectacle qui se joue en ce moment et qui s'appelle Les Raïm à la vie, qui se joue à la Maison de la Poésie et dans lequel qui est fait à partir d'un texte que tu es co-traducteur aux éditions de l'Arche, on va en reparler, un spectacle que tu as mis en scène et dans lequel tu joues. Qui n'est pas le seul d'ailleurs, Jean-François Labouvry qui est là, et la gentillesse d'être là aujourd'hui, est aussi un des comédiens de ce très beau spectacle. Alors, il s'agit, mais on va s'en expliquer, en un certain sens, d'un théâtre, enfin je crois que c'est un mot que, en tout cas, tu n'écartes pas par moment, peut-être qui pourrait t'appeler, ou qui est en dialogue avec une forme qu'on pourrait dire théâtre documentaire, ou théâtre qui dit quelque chose par rapport à un réelle donnée sous cette forme, on pourrait appeler documentaire. Alors autour de ça, il m'a semblé que les questions que nous nous étions posées ces dernières semaines se reposaient, mais un peu autrement. Et j'avais envie qu'on en parle avec toi. Donc, avec toi, donc avec vous, puisque vous êtes là aujourd'hui. Donc dans un premier temps, nous pourrions parler de ça. De savoir ce qu'il en est et ça nous informer un peu sur ce que tu fais. Certains d'entre nous avons vu le spectacle, d'autres non. Sur ce que tu fais, ce que tu cherches, ce que vous faites et que vous cherchez autour de cette idée de théâtre documentaire. Tu n'es pas le seul à en faire ici ou en avoir fait. Il y avait Loach Moll, par exemple, qui est là et que je remercie d'être revenu à travailler sur un spectacle autour de la figure d'Adriano Sofri, et qui était avec Michel Beretti, j'allais dire, que tu as vu et que moi aussi j'ai vu, et que nous sommes certains nombreux à avoir vu avec. Et donc, bienvenue Michel, bienvenue, merci aussi d'être des nôtres aujourd'hui. Et vous avez travaillé sur ce spectacle qui ressortissait véritablement à ce qu'on peut appeler un théâtre en un certain sens documentaire. Qui a été présenté au Festival d'Avignon l'année dernière. Bien. Donc voilà, premier temps, ceci. Deuxième temps de notre conversation, j'aimerais bien, si nous y arrivons, j'y suis très peu arrivé depuis que j'essaye, pas plus avec Hervé qu'avec Thomas Richards, qu'avec les gens de l'atelier expérimental, depuis que je cherche, j'aimerais bien t'adresser quelques questions sur l'acteur. Je ne sais pas si tu vas arriver à les poser, en tout cas, ce sont des questions qui sont difficiles à poser et je crois auxquelles il est encore plus difficile de répondre sur l'acteur. Et Hervé m'a répondu la dernière fois, mais toi, tu as joué, tu n'as qu'à y répondre toi-même. Je te taquine, mais c'est un peu ça. Par rapport à cette affaire de jugement, j'aimerais bien te... Bon, ça fait... Excusez-nous du peu, ça fait bientôt... C'est pas 40 ans, mais ça fait plus de 35 ans que je te vois jouer. Hein. Donc voilà, et tu t'es vu jouer dans des circonstances extrêmement diversifiées, multiples. Nous avons joué ensemble, nous avons œuvré ensemble à toutes sortes de titres. Et tu es un acteur qui a une énorme expérience de comédien, et puis aussi qui a entré en dialogue avec le jeu d'acteur de façon très diverse, très différente. Tu n'es pas le seul acteur au spectacle, on l'a dit. Et donc, il y a une question, il y a un ensemble de questions qui se passent dans la tête de l'acteur pendant toujours, que je voudrais essayer de reformuler, si tu le veux bien. Ils sont donc plutôt liés à notre, plus intimement liés à notre. Donc, si vous voulez bien, on commence par cette affaire de théâtre documentaire, autour de Raïm. Si tu veux bien. Bernard, comme tu sais, il n'y a pas d'exposé, il n'y a pas de conférence ici, je n'ai pas demandé, je n'ai demandé à personne, ce n'est pas la convention, personne n'en a fait ici, quelle que soit la nature des séances et des intervenants. Mais enfin, si toi tu veux dire quelques mots en entrée sur ce que tu as cherché, ce que tu cherches, tout du cas que tu vas faire en ce moment, tout à fait faire, bon, comme tu veux. Jusque 7 avril, mais c'est pas loin. Oui, alors, d'abord, il y a une chose, c'est que ce terme de théâtre documentaire, que j'avais encore jamais entendu utiliser, même s'il l'a été avant, n'est apparu qu'une fois qu'on avait monté le spectacle. C'est-à-dire que je n'avais pas décidé, tiens, je vais faire du théâtre documentaire pour changer. Et ce terme est apparu par l'intervention de Paul Alliot, qui, la veille de la première, on a créé le spectacle en juin 2004, le Théâtre du Soleil. On a été reçu pendant 2 mois par Ariane Mouchkine, qui nous a prêté l'ensemble du Théâtre du Soleil, comme elle sait faire, comme ça. Et on a créé le spectacle là-bas. D'ailleurs, c'est important de dire ça parce qu'on ne savait absolument pas si ce spectacle aurait une carrière plus longue que les 8 représentations qui étaient prévues en juin 2004, au Théâtre du Soleil. Et en fait, ça va être un des spectacles qui aura été joué le plus que j'ai noté. Parce que là, on va arriver à 80 représentations en très peu de temps. Et donc, c'est Paul Alliot qui a dit, finalement, ce qu'on a fait, c'est un peu comme du théâtre documentaire. C'est un peu comme un documentaire de création au cinéma, mais au théâtre. Qui vit dans ce cas. Et j'ai trouvé ce terme absolument adéquat, le plus juste par rapport à ce qu'on était en train de faire. Surtout que ce que je vis depuis 15 ans maintenant avec une documentariste de cinéma, dont l'essentiel de l'activité est de faire des documentaires de création, et que du coup je connais un peu plus que comme spectateur, un peu de l'intérieur, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le documentaire, que je ne savais pas avant de la connaître. Et effectivement, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de faire théâtre avec, à partir de personnages, personnalités qui ont réellement existé, et à partir de mots qui ont réellement été prononcés. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait dans ce spectacle. Et pourtant, il y a œuvre d'écriture. C'est un texte ô combien écrit. Et c'est pas la pure reproduction de ce qui a été dit. Et on touche en fait à l'essence du théâtre. Peut-être de manière encore plus bouleversante. Et là, je parle du point de vue de l'acteur. Hein. Je ne parle pas du point de vue du spectateur, c'est pas à moi d'en parler. Mais encore plus bouleversant que quand on interprète un personnage de théâtre.
Et ça, ça n'a pas fini de me secouer. Et puis, et de transformer, à partir de ce spectacle-là, de transformer définitivement tout ce que je vais faire après. Même quand ce ne sera pas du théâtre documentaire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus près de ce qu'est l'essence même du fait de jouer, en faisant ce spectacle-là, que dans tous les autres spectacles de fiction, entre guillemets, c'est-à-dire de textes de situation, de textes écrits, que j'ai pu jouer avant. Donc on va beaucoup en parler. Donc je repars du point de départ. Le point de départ, c'est Bernard Chartreux, dont la femme est photographe, et qui a acheté un livre en Allemagne qui s'appelle Wünsche Portrait, Portrait juif, qui est en fait un livre qui accompagnait une exposition de photos d'une photographe allemande qui s'appelle Karline Kölnbaum. C'était le catalogue de l'exposition. L'exposition photo, c'était 80 portraits de juifs d'origine allemande et autrichienne qui avaient fui l'Allemagne nazie entre 1930 et 1943 donc 1930-1945, et qu'elle est allée retrouver entre 1988 et 1989 de sa propre initiative dans le monde entier. Beaucoup aux États-Unis, en Israël, en France, en Angleterre, et beaucoup aussi en Allemagne et en Autriche. Et elle avait choisi de ne rencontrer que des personnalités qui ont beaucoup compté dans leur domaine respectif. Parce que son but, elle n'est pas juive, hein, c'est une Allemande, mais en 1939, son but était de montrer aux Allemands le visage et la pensée de tous ceux qu'ils ont chassés, et de tout ce qui, je la cite textuellement, et de tout ce qui alors a été perdu et détruit. C'était son seul but, son fil rouge. Et en même temps qu'elle a fait ses photos, vous imaginez, compte tenu des personnalités qu'elle a rencontrées, c'est-à-dire, entre guillemets, des monstres dans leur domaine respectif. Des gens comme Michaël Lagovitz, Bruno Kreisky, Bettelheim, Levinas, Georges Tabori, Simon Wiesenthal, il y en a une bonne moitié qui sont connus un peu partout, et puis l'autre moitié qui est surtout connue dans les pays anglo-saxons et en Europe centrale. Donc des gens qui avaient tous, pour les plus jeunes, 70 ans, pour les plus âgés, pas loin de 100 ans, qui n'avaient donc plus grand-chose à prouver. Rien du tout à perdre, qui n'avait peur de rien, et qui était une liberté de pensée, de parole extraordinaire. Et ces gens-là, il n'a pas tout qu'elles les approchent, qu'ils acceptent, qu'une jeune photographe allemande, elle avait 48 ans à l'époque, pour eux c'était une petite fille, viennent les chercher, les prendre en photo et leur poser des questions. Et la force de ce projet, c'est que cette femme n'est ni historienne, ni journaliste, ni sociologue, ni philosophe, c'est une photographe. Et même très particulièrement une photographe de mode. Elle a beaucoup travaillé pour Vogue, c'est ça qui l'a rendue célèbre aux États-Unis. Et c'est une grande photographe. Mais elle a cette naïveté, cette innocence de quelqu'un. De quelqu'un qui n'est pas juif, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de questions qu'elle pose. Qu'un juif, même non croyant, même non pratiquant, ne pourrait pas poser. Et deux, qu'elle n'est pas une spécialiste. Et donc ce livre, Chartreux est tombé dessus, a commencé à le traduire, et m'a très vite contacté en se disant qu'il n'y arriverait pas tout seul. Il avait besoin d'un autre germanophone comme moi, et puis surtout du regard d'un type comme moi qui suis juif. Et en plus dont le père est juif allemand. Et dès que j'ai lu le premier interview, la première page de la première interview de ce livre, je me suis dit oui, sans hésiter, et puis tout de suite je me suis dit, pour faire un spectacle. C'était évident. Donc on a traduit ce livre, on a très vite convaincu Rudolf Hart, l'Arche, l'éditeur, de le publier en français. Il faut dire que ce livre n'a jamais été traduit, ni en français, ni en anglais, ni en hébreu. ce livre n'a été diffusé que quand au cours de l'exposition qu'il accompagnait. Et curieusement, ce livre n'a jamais été traduit, notamment pas aux États-Unis, ce qui est vraiment très, très surprenant. Alors que l'exposition s'est déplacée dans le monde entier, encore il y a un an en Australie, à Melbourne. Donc on a traduit le bouquin, c'est pas notre métier, ni à Charteau ni à moi. On est germanophone mais amateur. Alors moi j'ai un rapport à la langue allemande qui est très profond, mais je n'ai jamais fait d'études d'allemand en dehors du lycée. J'ai un rapport profond parce que mes parents sont de langue maternelle allemande, mais précisément ne parlaient jamais allemand avec moi. Hein, j'avais surtout pu parler cette langue et pas la transmettre. Donc je n'ai appris l'allemand que parce que je les entendais parler l'allemand entre eux. Mais j'ai un rapport très, très sensuel, très, très profond à cette langue. Je la sens. Je la connais pas, je la sens. Et donc on a fait ce travail de traduction qui en lui-même a été un moment extraordinaire. On a fait le calcul à peu près 1800 heures de travail chacun pour traduire ces 35 portraits. Parce que c'est pas notre boulot, c'est-à-dire que on bossait comme des brutes avec le dictionnaire, on allait évidemment beaucoup moins vite que les traducteurs professionnels, mais peut-être qu'on allait beaucoup plus loin, précisément parce qu'on allait moins vite. Et puis, ça c'était entre 2002, ça a pris à peu près un an et demi, de moitié de 2002 jusqu'à fin 2003. Le livre est paru en décembre 2003. Moi, j'ai organisé une lecture de quelques entretiens, déjà comme ça, très rapidement adaptés au moment de la sortie du livre au Théâtre du Soleil, en décembre 2003. Où j'ai fait venir toute une série de programmateurs qui sont venus écouter le texte, et c'est comme ça que j'ai trouvé les moyens de monter le spectacle. Je tenais plus que tout à ce que ce spectacle soit entièrement financé par le théâtre public. Il était hors de question pour moi de chercher de l'argent ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est-à-dire dans la communauté juive. Ça aurait été une contradiction totale que ce spectacle soit produit. Un spectacle communautaire, puisque précisément ces figures extraordinaires racontent, et là, c'est-à-dire c'est l'universalité de la pensée en général, de la pensée juive en particulier, mais la pensée en général. Et donc la question qui se posait, c'était que ce spectacle soit transmis au public le plus large possible. La meilleure manière que ce livre aussi soit transmis. Parce qu'il est bien évident que sans le spectacle, le livre aurait été vendu, si tout va bien, à 300 ans. Avec le spectacle, on va avoir touché à peu près 10 000 personnes. Le spectacle aura touché à peu près 10 000 personnes et le livre se sera vendu à peu près à 2500 à 3000 exemplaires. Et peu importe, d'ailleurs le nombre. Ce qui importe, c'est qu'on mesure que ces 10 000 personnes qui ont été touchées par ce spectacle, il y a dans le... Je parle de manière très confuse, hein, parce que les idées me viennent... Il y a dans le spectacle un des personnages, une femme, Cordelia Edvardsen, celle qui finit le spectacle, qui dit à un moment que ce qu'il y a de divin en l'homme a été définitivement brisé, elle ne parle pas de Dieu, elle parle de ce qu'il y a de divin en l'homme, cette dignité a été définitivement brisée par Auschwitz, et tant qu'on ne le prendra pas réellement en compte, le monde sera foutu, il restera foutu, le monde entier. Et elle dit que ça se propage comme les ronds concentriques qui font une pierre quand on la lance dans l'eau. Et je pense, en toute fausse modestie, que ce spectacle va avoir un effet de cercle concentrique inverse. Petit cercle concentrique dans un petit étang, peut-être un jour un lac, mais va avoir un effet, effectivement, de provoquer. Enfin, je sens que ce n'est pas du pipeau, je le sens, je le vois, je l'entends, je le sens tous depuis qu'on joue le spectacle. On l'a joué quand même un peu partout en France. Et ensuite au monde, dans des endroits très différents. Et ça aussi, il faudrait en parler. Entre jouer ce spectacle à Montpellier, au Centre Dramatique, ou à Strasbourg, au Maillon, ce qui se passe, ou à Rouen, au Centre Dramatique Régional, ce qui se passe, ce que ça produit, n'a rien à voir. Ben, ça n'a rien à voir, c'est pas le mot, mais c'est l'effet même, le même spectacle, produit sur la salle des effets qui sont... ça, c'est très étonnant, ça, j'ai encore jamais vu. C'est-à-dire que ça produit de l'effet, mais pas du tout le même. À Montpellier, les gens étaient morts de rire. À Strasbourg, on entendait une mouche, on n'entendait pas une mouche venir. C'était... évidemment, c'est lié à l'histoire de Montpellier par rapport à la dernière guerre et à l'histoire de Strasbourg. Mais le sentir à ce point-là est assez unique. Ça peut d'ailleurs nous amener un peu à la question que vous posez sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un acteur. En tout cas, quand on joue un spectacle de ce genre. Ce que je peux dire en tout cas, étant à la fois metteur en scène, adaptateur, écrivain du texte de la pièce, pas écrivain, pas un auteur au sens où il n'est pas inventé le truc, mais écrivain de ce qu'il dit, et acteur, ce que je peux dire, c'est que je pense avoir jamais vécu quelque chose d'aussi total, c'est dangereux de total, mais d'aussi fort, d'aussi épuisant, non, moralement, mentalement, intellectuellement, et donc physiquement, même si on ne peut pas les tenir, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'avec ce spectacle-là, et que j'ai joué autre chose maintenant depuis, c'est intéressant, mais je ne suis plus le même acteur. C'est clair. Ça m'a libéré de toutes choses. Ça m'a libéré de ce qui est le pire pour l'acteur, c'est-à-dire de narcissisme. Ça m'en a libéré depuis tout mon vie, longtemps, ça fait 40 ans que j'ai fait ce spectacle magique. Ça m'a libéré de ça. Le narcissisme qui est précisément ce qui est interdit de vous. Voilà.
Questions ou réactions ou interlocutions diverses sur cette, ce que d'abord sur ça, sur cette entreprise là et sur ce que vous y faites et tout ce que Cédric, non je croyais pas.
Bon, je suis pour mon mémoire, évidemment. Je me demandais comment, mon mémoire, évidemment. Je me demandais comment, précisément par rapport à ce moment-là, ce spectacle que je n'ai pas vu pour une fois. Est-ce qu'il en est de quelle mémoire, comment
On joue depuis 3 ans, ce spectacle. On l'a créé en juin 2004. On l'a filmé en juillet.
Et on n'y avait pas pensé avant, mais on est tombé pile. C'est-à-dire on a repris pile le 27 janvier 2005, et c'était vraiment un pur hasard. C'est-à-dire le jour de la commémoration de la libération d'Auschwitz. C'est le 60e anniversaire. Vous vous souvenez où à la télé, on voyait que ça, pendant
la neige
et tout, et les larmes dans la voix, et la sinistrose totale. Et quand on a réalisé ça, alors qu'on n'y avait pas du tout pensé, ça nous a complètement fait flipper parce que ça, on avait peur que ça tue complètement le projet, ce fameux terme qui me hérisse moi, qui s'appelle devoir de mémoire, écrase complètement le projet, parce que ce que ces gens racontent, c'est tout le contraire du devoir de mémoire. C'est... Je voudrais raconter quelque chose. C'est-à-dire, donc, moi je remplace devoir de mémoire par désir de mémoire. Je voudrais raconter quelque chose d'un peu intime, enfin d'un peu personnel. Jusqu'à ce que je fasse ce spectacle, je pensais... Je ne suis pas croyant ni pratiquant. Je n'ai aucun contact avec la communauté juive. Et pourtant, je suis juif. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Et j'ai toujours pensé que ma judéité, en fait, était, était ce que Kreisky, d'ailleurs, dans la pièce, appelle une communauté de destin. C'est-à-dire que je suis juif parce que je partage le destin des juifs. Il est hors de question de nier ma judéité parce que ce serait comme nier comme une trahison, vite, hein, trahison morale. Et le fait d'avoir fait ce spectacle a complètement inversé ma position, c'est-à-dire que ce qui fait que je suis juif, c'est mon origine, c'est pas mon destin. Et le fait d'avoir découvert ça est très libératoire, parce que c'est reconnaître d'où je viens et décider où je vais. Alors qu'une communauté de destin, c'est un truc qui t'écrase. Et ce qu'il y a dans cette histoire de devoir de mémoire et de commémoration, il y a quelque chose de complètement écrasant qui fait qu'au bout d'un moment, soit on ferme, soit on se tait parce qu'on n'ose pas l'ouvrir parce que c'est tabou, soit on fuit. C'est-à-dire que ça a exactement l'effet inverse que ce qui est cherché. C'est d'ailleurs probablement ce qui explique que la presse ne vienne pas, enfin, résiste terriblement à venir voir ce spectacle. On a finalement eu, à la dernière, il y a un an et demi, un article dans l'idée qu'on est allé chercher le jour de la dernière, et ce matin, un article dans l'Humain. C'est les deux, pour le moment, c'est depuis 4 ans qu'on pousse, enfin, 3 ans qu'on pousse ce spectacle, c'est les deux seuls papiers de la presse nationale qu'on ait pu avoir. Ils ne viennent pas. Alors, la seule explication que j'ai comme ça, c'est qu'ils ont peur, qu'ils ont peur de venir, c'est-à-dire qu'ils ont peur de ne pas aimer et de ne pas oser le dire. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont eux aussi écrasés par cette histoire de devoir de mémoire. Et... je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ça se voit pas comme ça, parce que dès que ton garçon
la semaine dernière au musée juif à Berlin. L'idée des portraits qui me rappelle ce souvenir de la visite du musée. Dans le musée d'histoire, donc, où on voit aussi des photos et des textes des grandes figures de l'histoire juive, de la pensée juive. Moi je fais une mine, mais c'était extrêmement douloureux comme expérience. Je ne sais plus à quel étage, il y a un endroit où mal, mais tant pis, on nous fait vivre une expérience dans une œuvre plastique qui est de je ne sais plus quel artiste. On est dans la pénombre, dans une espèce de long couloir, mais qui va en se refermant et de plus en plus dans l'ombre. Et au sol, vous l'avez peut-être vu, il y a des visages, des espèces de galettes métalliques comme ça, avec des petits visages. Et de différentes tailles, comme des visages d'enfants ou d'adultes. Et c'est tous des ronds plats en métal, avec juste des trous pour les yeux et la bouche. Ils sont accumulés au sol, et on marche dessus. Évidemment, ça grince, ça couine. Et c'est effrayant, c'est plus effrayant. D'un coup, ça vous entendre en parler, puis justement d'entendre l'expérience inverse d'une pièce où on va donner de la parole à des visages et à des pensées. Des vivants, c'est pas du tout la même expérience, et c'est beaucoup moins. Et ça s'appelle à la vie, et c'est tout le contraire de cette expérience totalement écrasante que j'ai vécue dans ce musée, enfin, et qu'on vit tous, et qui est faite pour ça d'ailleurs. Ouais.
D'ailleurs,
si
je peux dire un mot en tant que spectateur, parce que pour l'instant, on parle de. Ce qui m'a beaucoup frappé en voyant ça, c'est que c'est. À quel point les effets de reconnaissance, alors par exemple communautaire, mais il n'y a pas que ça, les effets de reconnaissance sont déroutés
Mais ils sont déroutés de façon très compliquée. Et là, peut-être qu'on on reviendra à l'affaire du jugement. Ils sont déroutés parce que, par moments, on croit les retrouver. Hein? C'est-à-dire que dans le discours de ces gens sont des êtres humains qui sont dans l'histoire, comme vous et moi, et qui donc, quand ils s'expriment avec les idées, parfois, qui sont là, qui sont dans les idées du temps. Donc, par moments, on croit retrouver ce qu'on appellerait aujourd'hui des marqueurs communautaires, c'est-à-dire des signes comme ça, disposés là, où on dirait, tiens, ben ça c'est oui, ça c'est la reconnaissance communautaire, ou bien ça c'est la reconnaissance allemande, ou bien ça c'est la reconnaissance américaine, ou ça c'est la reconnaissance française, ou bien Bruno Kreisky, donc, qui était chancelier d'Autriche pendant de longues années, bon ben ça c'est le marqueur de l'homme politique social-démocrate, enfin, etc. Donc, on croit, on se dit, tiens, ben ça c'est, on peut reconnaître ceci. Et c'est systématiquement dérouté, d'abord par la parole elle-même, ensuite par le rapport de ces gens à la vie, on peut dire, hein, d'une part, d'autre part par la juxtaposition des choses. Hein. Il faut dire que la question palestinienne, israélo-palestinienne, est assez présente, pas au premier plan, mais assez présente, dans l'espèce de second plan, mais un second plan très présent quand même. Et sur cette question israélo-palestinienne, on entend des choses extrêmement diverses, contradictoires, passer d'un point de vue au point de vue exactement opposé. Hein. Ça donne une idée, une impression très forte, une espèce de complexité, justement, de complexité de la pensée, quoi, du vivant, du travail vivant. Je sais pas si tu as eu cette impression, Hervé, mais moi je l'ai eu, je parle là, c'est en tant que spectateur. J'ai eu l'impression que, par exemple, à un moment donné, pour reprendre l'exemple de la question palestinienne, il y a un discours de Bruno Kreisky, extrêmement fort, quoi, quand on pense qu'il s'agit de quelqu'un juif qui revendique comme ça très fortement son rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est un discours de mise en alerte par rapport au problème palestinien, extrêmement inhabituel, c'est-à-dire en un certain sens, je ne sais pas s'il faut dire courageux, mais en tout cas inattendu, et un peu prophétique aussi, parce que ça date de la fin des années 80, et qu'il annonce, ouais, tu vois, alors ça date de 79, et qu'il annonce des choses qui sont des choses... le discours date de 79, l'entretien date de la fin des années 80, et il cite son discours de 79, qui annonce des événements postérieurs de 20 ou 30 ans de façon inouïe, quoi. Bon. C'est une mise en garde aux Israéliens et un peu à tout le monde devant ce qui est en train de se passer. Bon, alors on se dit, bon, alors là, disons, ce côté-là du discours apparaît très fort. Et puis immédiatement après, paf, je ne sais plus quelle est l'interview suivante, je ne me souviens plus, mais immédiatement après, voilà, c'est ça. Ah oui, ça c'est le type qui a un petit peu que joue Hubertus, voilà. Alors qui lui est en revanche absolument sur la position opposée, farfelu mais opposée. C'est vous qui jouez Kreisky ?
Non.
Qui est-ce qui joue ?
Philippe Dormois.
Ah, Philippe Dormois, voilà, c'est ça. Philippe Dormois, oui, ça y est. Oui, c'est ça, oui. Oui. Philippe Dormois, oui, ça y est, je le revois. Et donc, on passe au point de vue absolument opposé, et donc c'est très dérouté. Les effets de reconnaissance sont très déroutés. Donc en effet, on n'est pas dans quelque chose. La mémoire, je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, la commémoration, sans aucun doute, c'est certainement pas, quoi. Mais nous y reviendrons tout à l'heure par rapport à la position que ça engage chez les acteurs. Donc, oui, Hervé. Oui,
l'occasion de faire part de l'expérience que j'ai eue du spectacle, parce que une amie m'a conseillé d'aller le voir. Je suis allé dans un théâtre à, je sais pas où c'était, j'ai du mal à le trouver, je ne sais plus, c'était où, il y a 2 ans, non, il y a un an, je ne sais pas, bref, j'ai du mal à le trouver, je ne savais pas ce que j'allais voir, j'avais un train à prendre, et j'étais au, je me demande si je ne suis pas arrivé en retard. De 2 minutes, rien, j'ai loupé le... Bon, voilà, 1 minute, rien, je détestais ça, mais enfin, j'avais fait tout un... tout un circuit pour trouver une fidèle théâtre, enfin bon, bref. Et alors, je garde exactement ce souvenir-là, c'est-à-dire d'avoir une espèce de, oui, de discussion autour d'un objet dont je ne peux pas dire. C'était au contraire, tout à l'heure tu parlais de centralité ou de force, de cercle concentré, etc. Il y avait bien un centre, mais il y avait des points de vue extrêmement divers qui rendaient la chose extrêmement intéressante. J'étais en plus mal placé parce que j'étais à l'étage, j'étais loin. Donc vraiment les conditions les pires. Et j'avais un train à prendre, je me disais merde, je vais louper mon train. Bon. Et je suis resté. Et je suis resté jusqu'au bout, alors même que il y avait un truc qui m'intéressait beaucoup. Bon, il se trouve qu'effectivement, on travaille sur des problématiques comparables, on peut comparer, mais j'avais été très accroché et très interpellé, effectivement, par le côté agorotique. dans le sens où, justement, il y a des discussions devant nous qui ont lieu et dont le principe de vraisemblabilité ou de véracité tout le temps démenti par la présentation ou par d'autres points de vue contradictoires. Hein. Alors évidemment, ce qui est un principe d'ironisation du théâtre qui est pour moi fondamental, qui m'intéresse au théâtre.
À t'interroger toi, mais alors aussi Jean-François, et aussi vous, par rapport à l'expérience que vous en avez différemment, même si dans l'expérience dont nous parlons, Mélanie Notte était acteur, vous avez eu à faire travailler des acteurs, vous travaillez avec des acteurs. Ah oui, dans ce truc-là? Ah non, en général. Mais pas dans ah oui, dans des cas que ça. Ah oui, dans le Soffri?
Oui, ah, je savais pas. Un comédien qui a eu des problèmes, bref, peu importe. Donc,
qui ça, Patrick? Non, ah non, non.
Ah, ouais.
Ah oui. Ah, tu as remplacé le remplaçant. Oui, d'accord, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, alors, ce que je voulais poser comme question, mais c'est directement, d'abord, pour partir d'une chose que tu as dite. Directement partir de ça. Qu'est-ce que ça change, ou ça ne change pas, de dire des paroles qui ont déjà été dites, des paroles qui sont supposées pour un acteur, hein, ou pour des paroles qui... Vous savez, je suis sur l'affaire du théâtre documentaire. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas. Et où ça change de se situer dans un espace qui n'est pas celui de la fiction au sens traditionnel qu'on reconnaît à ce mot, hein, au sens, disons, de l'acception traditionnelle qu'on accorde à ces termes. Qu'est-ce que ça change dans la pratique de l'acteur? Bon, alors toi, tu fais Wiesenthal et Troller. Et vous, Jean-François, vous jouez donc
Lajovic? Oui, et
Et vous avez fait parler ce film, vous avez... Qu'est-ce que ça produit? Alors, chez l'acteur, forme, c'est ça. Qu'est-ce que ça produit, le fait d'avoir à dire des mots qui ont été, en principe, dits dans une situation réelle, entre guillemets, hein?
Parce qu'en plus, c'est moi qui ai choisi les mots que je vais dire. Parce que c'est moi qui ai fait l'adaptation. L'interview de Wiesenthal, elle fait 30 pages dans le livre. Ce que je dis fait à peu près une sixième. Donc j'ai choisi. J'ai organisé, j'ai rajouté des questions, parce que, évidemment, la photographe, dans son livre, elle a enlevé le maximum de questions. Elle pose des questions de temps en temps et puis elle laisse partir le discours de son interlocuteur. Donc elle a coupé des questions. Alors moi, je ne sais pas les questions qu'elle a coupées, moi j'imagine des questions, tout ça pour rendre tout simplement le théâtre plus théâtre, quoi, chose plus vivant. Donc j'ai fait une adaptation. Parfois, j'ai même donné, dans l'interview de Jonas, il y a une partie des réponses de Jonas qui sont prises en charge par l'intervieweuse. C'est-à-dire que dans sa question, il y a des mots qui ont été prononcés, en fait, par Jonas. Donc, j'ai une double responsabilité, parce que le mot que j'ai envie de répondre, c'est le mot responsabilité. C'est-à-dire que j'ai effectivement une responsabilité différente si je joue Arlequin et si je joue le Boudin. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, de responsabilité politique et morale. C'est-à-dire de rendre compte de la pensée d'un homme, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit au moment où je... Ça ne se pose pas trop sur Wiesenthal, mais ça peut se poser par exemple sur les discours comme celui de Erwin Sarga, que joue Bertus Biermann ou Arthur Brauner, ou justement sur le match. Il dit des énormités, même s'il les dit sur le mode de la rigolade. Mais avec Wiesenthal, même avec Wiesenthal, il y a quelque chose, c'est quand même un type particulier, quoi. Il a consacré sa vie à chaque fois des nazis. Il dit qu'il y a une chose qui l'a sauvé, c'est qu'il n'a jamais éprouvé de haine. Alors, on le croit ou on ne le croit pas. Parce que pour tenir le coup, comme il a tenu le coup jusqu'à 95 ans, quand il a continué jusqu'à 95 ans, il est mort après. Je ne sais pas si c'est de la haine, mais c'est elle lui pose la question à un moment, c'est de la vengeance. Il dit non, c'est un réflexe de survie. Donc voilà, alors en permanence, si tu veux la penser, on ne peut pas jouer ces textes, alors là je pense que c'est vrai pour tous, sans être en permanence dans une situation de jugement. De jugement, pas de jugement moral, mais de prendre position par rapport à ce qu'on dit, de penser. On pense. On pense exactement à ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on est à ce point influencé par le public qu'on a en face. C'est pour ça que c'est à ce point différent de jouer à Montpellier ou à Strasbourg, ou à Genève, ou à Blanc-Mesnil, où on avait des salles qui étaient constituées pour moitié par des élèves de lettres de Blanc-Mesnil, Black-Blanc-Beur. Qu'on était allé voir avant et on avait encore un autre enjeu que celui qu'on peut avoir par rapport à public adulte de Strasbourg. Un enjeu plus actuel et plus directement politique. Quoi. Donc on est complètement traversé par ça. C'est ça qui nous fait jouer. C'est vraiment cette responsabilité politique et morale dans ce qu'on dit. Même quand on n'est pas d'accord, parce qu'on sait qu'effectivement le spectacle est fait de telle manière qu'il est fondé sur la multiplicité des points de vue et sur ce que tu disais tout à l'heure.
Alors, moi je n'ai pas participé à l'aventure de la création avec l'équipe. J'ai rejoint l'équipe formée par Bernard. Après les 8 représentations de la cartoucherie. Donc j'avais vu le travail, les 2 épisodes, parce qu'à l'époque on présentait 2 soirées différentes. Moi j'aurais tendance à dire que c'est le projet de Bernard. Le terme de théâtre documentaire, c'est le projet de Bernard et de l'équipe, parce qu'il y a eu un travail d'ensemble très, très intense et très approfondi. L'adaptation de Bernard, c'est retravailler au jour le jour des répétitions. Et je crois que c'était une période très riche, très intense de travail. Et donc je crois que c'est le projet de Bernard, le résultat que nous voyons. Et le terme de théâtre documentaire t'appartient. Je veux dire qu'à partir de ce livre, on pourrait aussi faire du commémoratif. On pourrait éventuellement aller vers plus de fiction, vers plus de pathos, vers plus de... Ça s'est beaucoup fait à propos de nombreux sujets, du théâtre à composantes historiques relatives à des périodes terribles de l'histoire, et puis avec beaucoup de théâtralisation. Donc c'est vraiment le projet du réseau de Bernard, de la mise en scène, etc. Alors, c'est Bernard qui m'a demandé de rejoindre le groupe quelques semaines avant la seconde reprise. Il se trouve que je joue assez rarement, même si j'ai été comédien à de nombreuses reprises, mais je ne joue pas très, très fréquemment. Donc, ça n'a pas été simple pour moi que de retrouver le rythme. J'en ai d'autres, j'ai eu d'autres métiers, j'ai dirigé... Là, je venais de quitter, quand Bernard m'a téléphoné, je venais de quitter, j'ai dirigé IVP, le théâtre, la compagnie qui vient s'installer, le théâtre des sourds, qui vient s'installer rue Chaffal. Donc j'ai dirigé l'ensemble de l'association pendant 11 ans. Donc, je sortais de... Oh, voilà, voilà. Donc ça n'a pas été simple de retrouver les rythmes du comédien. Je crois que Bernard s'en souvient. Et j'utiliserai un peu les mêmes termes que lui. Dans mes souvenirs de théâtre, chaque comédien se constitue son propre théâtre aussi. On crée autour du rôle que l'on a, c'est son propre espace. Et là, il y a une grande pudeur à avoir à l'égard de la construction de son propre espace, à la rencontre de la personne dont on transmet le... J'utiliserai le terme de pudeur, la question du... Il y a moins de confort, au sens où, justement, même dans le personnage d'Arlequin, ou alors le théâtre n'a aucun intérêt, mais comme il se recrée chaque soir, il y a une aventure autour de chaque rôle, il y a un enrichissement possible, puis jamais une soirée ne correspond à une autre. Enfin, c'est ce qu'on connaît parfaitement bien concernant le théâtre, donc il y a chaque fois un acte de théâtre qui a lieu. Mais moi, je l'aborde toujours avec... je sais qu'il y a un inconfort, que, en plus Bernard est très attentif à cela, on ne peut pas se permettre le confort que l'on peut trouver dans Arlequin, mais vers un certain génie aussi. Même la notion, c'est un terme terrible aussi, génie, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le génie, l'air du théâtre, l'espace du comédien sur scène. En plus, Bernard l'a dit, il y a un montage, il y a une réécriture qui est faite. Donc il y a une double responsabilité. Il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité politique dont a parlé Bernard. Ça, effectivement, je pense qu'on la ressent tous. Faute de quoi, on aurait la possibilité, ou si Bernard était absent, par exemple, faisait une mise en scène ailleurs, je ne sais pas, mais on aurait cette possibilité du pathos. Le pathos est toujours là, toujours à disposition. Et puis, donc il y a cette responsabilité vis-à-vis d'un texte qui n'est pas un texte de fiction. Bon, je suis tout à fait d'accord avec le terme de responsabilité politique. Et puis il y a aussi le fait que dans chaque entretien, beaucoup de choses sont dites. Il y a la condensation... et parfois une condensation très rapide avec des césures. On passe d'un sujet à l'autre. Erline de Kölbe le faisait, mais dans un entretien qui correspond à plusieurs pages. Et donc Bernard et les comédiens, au cours des discussions très nombreuses, mais surtout Bernard, qui a condensé les choses. Donc il faut, si vous voulez, en tant qu'acteur, passer d'un sujet à l'autre, chaque sujet étant d'une importance extrême. Il n'y a pas la possibilité de la... ou moins que dans d'autres œuvres de théâtre, d'un fil de discours que l'on pourrait suivre, là aussi avec un certain confort. Moi, par exemple, dans Reichranitzky, je passe d'un sujet de ce qu'il faut que je dis de... Je parle de littérature, et puis ensuite, immédiatement après, j'en viens à un récit autobiographique concernant ma présence au sein du ghetto de Varsovie, où Reichranitzky a joué un rôle très important aux côtés du président du Conseil. Il a aussi côtoyé, de là où il était, le mouvement des jeunes résistants. Il a aidé aussi. Il était au centre en tant que coordinateur et interprète. Donc je passe à ce récit-là, et puis ensuite on bascule vers autre chose. Enfin, vous voyez, il faut tenir, chacun d'entre nous doit tenir une condensation de... plusieurs récits associés, mis ensemble, mais il faut tenir cela aussi. Donc il y a ces deux écueils, il y a ces deux urgences.
Ou bien... penser après, quand il est sur l'écriture.
C'est-à-dire, j'ai une... Non, vas-y, parce non. que j'ai l'impression de...
C'est-à-dire que c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, lever les yeux au ciel, donc ce spectacle sur
Soffri, oui,
sur Adrien Soffri, donc le dernier qu'on a fait, en fait, repose aussi sur une écriture. C'est-à-dire que ça n'est pas du document brut. Il y a des phrases de Soffri là-dedans, mais il y a également beaucoup de phrases qu'il aurait pu prononcer, mais qu'il n'a jamais prononcées. Il y a notamment une sorte, par exemple, de discussion, je ne sais pas, posthume, avec Pasolini, puisque Pasolini est mort, qui n'a pas eu lieu, puisque les deux hommes, Pasolini et Soffri, étaient fâchés, donc ne se parlaient plus, simplement. Donc c'est quelque chose qui est là, supposé, qui relève plutôt du vraisemblable que du document. Donc ce sont des démarches voisines, mais tout de même pas... Il y a une poétique aussi de l'écriture, enfin j'espère, qu'il y a une forme originale, je veux dire, puisque Soffri est essentiellement un journaliste. Donc, il y a une dramaturgie qui relève davantage de l'enquête poétique, bien qu'elle s'appuie au plus près possible... deux documents, enfin des documents que j'ai pu rassembler, que nous avons pu rassembler, puisque je suis italienophone, enfin suffisamment pour pouvoir traduire les articles, les nombreux articles de Soffri auxquels on peut accéder par Internet. Et évidemment, se pose là la question de la responsabilité, aussi vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait confiance, qui n'a peut-être même pas lu le texte d'ailleurs, mais qui nous a fait confiance. Responsabilité également vis-à-vis de l'histoire, de cette histoire non seulement individuelle, mais de l'histoire des années de plomb que nous avons entrepris de raconter. Qui n'est pas fini comme on peut le voir aujourd'hui.
Il y a plusieurs façons de raconter des histoires. Nous avons travaillé pendant 2 ans, on a fait une enquête, on est allé sur le terrain et on a utilisé des masses tout à fait considérables d'archives, de documents. Nous avons fabriqué des documents et, y compris dans le dernier mouvement du travail, il y a eu effectivement une réécriture de tous les documents, mais nous sommes partis de documents. De textes, de écrits par Soffri qui ont été traduits, etc., d'interviews, de films, etc., etc. Nous projetons des documents. À ce titre, c'est du théâtre documentaire.
Oui, oui.
Donc non, ça c'est parce que sinon, on ne va pas comprendre pourquoi on sollicite l'exemple de ce spectacle. Mais ce spectacle avait été précédé de 2 autres. L'un qui était un travail à partir d'un document qui était S21 de Ritipane, travail de le film sur le génocide cambodgien, où nous avions fait un travail à partir du film, et particulièrement d'une séquence du film. Pour ceux qui l'ont vu, la séquence où l'ancien geôlier raconte dans une pièce vide exactement ce qu'il faisait, mime tout. Alors que faire d'une matière comme ça? Bon, alors ça, c'est un travail là-dessus. Et puis, un deuxième, alors que toi tu as vu, en 2 étapes, enfin bon, qui était un travail sur Jean Sénac, qui est un poète. Et là aussi, il y a eu un travail d'enquête. On est allé en Algérie, un poète algérien, on va dire. Ou alors là, il s'est agi de faire aussi une enquête sur sa vie, sa mort, etc. On a rencontré des gens qui l'ont connu et on a même mis en scène, en tout cas, une personne qui a travaillé avec lui et qui venait dire l'expérience qu'il avait eue avec lui. Hein, un comédien, il s'appelle Agoumi. Qui venait en scène à partir d'une interview qui avait été faite par Michel, qui venait dire, ben voilà, avec Sénac, il s'est passé ceci, etc. Donc tous les soirs, il venait raconter son truc. Moi-même, qui était à l'origine de ce spectacle, je venais me raconter. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que c'est plutôt une forme de question. Je venais me raconter ma propre enquête. Hein. Michel est intervenu dans un deuxième temps. J'avais déjà amorcé le travail, puis à un certain moment, je l'ai inclus dans le travail. Mais il y a des trucs que j'ai écrits moi-même. Bon. Et alors, pour en revenir au jeu, c'est pour ça que ça va se finir par une question. Ça, c'était très difficile. De venir en scène, dire moi je, et de m'adresser aux gens. Ça, c'était totalement, pour moi, abrutissant. Enfin. Oui, ça, c'est très troublant. De venir dire je. Mais vraiment, en mon nom, je. Hein. Moi, je, en tant que pied noir. Moi, je, en tant que metteur en scène. Moi, je, en tant que... C'est très bizarre. Ça provoque des effets de paralysie absolument incroyables. Mais ce que je voulais dire, alors, puisque je voulais pas parler de tout ça, mais j'aimerais en savoir plus sur ce que vous dites, sur la responsabilité, qui serait plus grande dans un cas que dans l'autre, qui serait plus grande au moment, mais comme, parce que ça c'est Denis qui pose la question, au moment où on joue, hein, dans le moment où on joue, pas avant, pas après, pas dans l'après-coup du jeu, pas dans l'avant-coup du jeu, au moment exactement où on joue. La dernière fois, j'ai dit à Denis que ceci, que parce qu'il a insisté vraiment jusqu'à un point extrême, alors voilà. Donc je dis, le moment même où on joue, si on est dans un état de jugement autre que le jugement, l'évaluation du comédien qui doit faire quelque chose, alors on ne peut plus jouer. Ça n'est, pour moi, c'est, alors ça, c'est plus possible. Quand on est dans le moment même de l'acte de jouer, de l'action, si on est dans une posture de jugement, morale, ou Dieu sait quoi, moi, je dis qu'on ne peut plus jouer.
Alors,
on a un trou, quoi, voilà. Alors, ouais, voilà.
Et à ce moment-là, la responsabilité n'est pas différente, quelle que soit la fiction, parce qu'il faut se préoccuper de... Il y a le clairagiste qui va envoyer l'éclairage comme ceci, la musique comme cela, la musique comme cela, puis le partenaire doit dire ceci, etc. Je veux dire, si je me préoccupe à ce moment-là d'Auschwitz, j'ai l'impression que je ne peux plus jouer, quoi. Enfin, ça, c'est plus dans ce moment-là, quoi.
Mais alors... J'ai l'impression qu'il y a un glissement entre jugement et responsabilité. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, le sentiment de la responsabilité, ça veut pas dire qu'on est en train de... c'est pas la même chose. Enfin, pour moi, ça veut pas du tout dire la même chose. C'est la responsabilité de ce qu'on dit, de où on le dit, de comment on le dit, de pourquoi on le dit à ce moment-là et surtout à qui on le dit. C'est-à-dire, et ça n'implique absolument pas de jugement. C'est évident qu'on ne peut pas juger au moment où on le prononce. C'est-à-dire, par exemple, dire, penser que ce qu'on est en train de dire est une énormité, c'est arrivé. Hein. C'est arrivé notamment, je me souviens, quand on a répété avec Hubertus Chargaff, à un moment, c'était peu avant la création du spectacle, pendant 24 heures, il a dit « je ne le jouerai pas ». C'est-à-dire qu'il était à ce point... Alors c'était très compliqué, hein, parce que Hubertus Biermann est musicien et acteur, mais il est devenu acteur, il était avant tout musicien, et puis il est allemand, et pas juif, il est allemand, vivement en France. Et il y a eu un moment où le fait de dire ce que disait Chargaff, Ce que ça risquait de provoquer, comme c'était avant qu'on crée le spectacle, comme réaction, comme malentendu, il ne l'assumait plus. Et donc il ne pouvait plus jouer. Et je me souviens, c'était deux ou trois jours avant la première, mais c'était au moment du Théâtre du Soleil. Et puis on a dit, bon ben, c'était impossible de passer outre, quoi. Et j'ai dit, bon ben... On sucre cette interview, puis après, il y a réfléchi, j'y ai réfléchi, on en a reparlé, on a retravaillé doucement, juste lui et moi, on s'est expliqué, on a beaucoup parlé sur ce que ça racontait, et on a passé le cap, et on a décidé de le remettre, ce Chargaff.
Oui, mais il est extrêmement, il était, on le vivait comme extrêmement dangereux. Il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que la photographe allemande, qui était bien sûr au courant de la traduction de son livre, et à qui on a demandé les droits d'en faire un spectacle, dans un premier temps, elle n'a absolument pas compris qu'on puisse même avoir l'idée de vouloir faire un spectacle avec ce truc-là. Parce qu'apparemment, en Allemagne, le théâtre documentaire, ce n'est pas une habitude. En tout cas, elle n'avait jamais entendu parler de ce genre de choses, de faire du théâtre avec des interviews, avec des textes qui ne sont pas théâtraux. Elle ne savait pas que ça pouvait exister. Et elle a refusé de nous donner les droits. Rudolf Hart a réussi à la convaincre de nous laisser aller jusqu'à ses premières représentations au Théâtre du Soleil et de voir après. Mais elle m'avait envoyé une lettre recommandée me disant que nous soyons bien clairs, je ne vous donne pas les droits. Donc, on a lancé le truc, on a trouvé des coproducteurs, on a dépensé 100 000 euros sur les 150 000 euros que coûtait le spectacle, sur un spectacle dont on ne savait pas si on allait avoir le droit de l'exploiter. Et ça, jusqu'au jour de la troisième représentation au Théâtre du Soleil, où Rudolf Rach, à qui elle faisait confiance, est venu voir le spectacle et a dit « c'est formidable ». Il n'y a rien à dire. Et après, on a eu... Mais je ne sais pas si vous imaginez la pression qui pesait particulièrement sur moi. C'est-à-dire, je savais qu'on prenait le risque, enfin que je prenais le risque d'avoir 100 000 euros de dette et de devoir appeler les théâtres qui avaient coproduit le truc pour dire... on ne peut pas continuer. Parce que sa grande crainte, c'était un, que les interviewés soient pas d'accord qu'on fasse du théâtre avec ce qu'ils ont dit, parce qu'il y en avait quand même, il y en a encore aujourd'hui, un certain nombre qui sont vivants, mais quand on l'a créé, il y en avait encore beaucoup plus. Ces gens ne sont plus de la première jeunesse, et Wiesenthal, il est mort l'année dernière, il y a à peine plus d'un an, par exemple. Et il y en a encore sur les 14, il y en a 6 qui sont toujours en vie. Alors on a envoyé une lettre à tous, sans exception. À tous et à leurs enfants. On a eu très peu de réponses. On a eu 4 ou 5 réponses que les gens encore vivants, enthousiastes. Faites ce que vous voulez. Plus on entendra ce qu'on raconte, mieux ça vaut. C'est ça qui a donné le courage à Rudolf Rach de tenir le truc jusqu'au bout. Et d'autre part, elle avait peur que... parce qu'elle ne connaît pas la France, elle connaît très bien les États-Unis, mais pas du tout la France, elle avait peur qu'on aille dans le sens que les Juifs haïssent toujours encore les Allemands. Et elle avait une peur bleue de ça. Qu'on tire l'adaptation, qu'on tire le spectacle vers une sorte de spectacle de ressentiment général. Vous voyez ce qu'ils nous ont fait, ces crapules, ces salauds. Elle avait peur de ça parce qu'elle avait eu précisément le sentiment inverse, et effectivement, c'est pas du tout ça qui ressort du livre. Donc je comprends parfaitement sa crainte. Elle parle pas français, donc elle pouvait pas directement juger de l'adaptation. Donc on avait cette pression-là. Il y avait cette responsabilité aussi en plus. Alors, ça, mais pour revenir à ce que tu disais, je crois que ça n'a rien à voir avec le jugement. Ça a à voir... J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'avoir en permanence conscience, mais alors finalement, peut-être mon exemple, il est trop facile de dire c'est pas la même chose dans Harlequin. Peut-être que dans un spectacle qui mérite le nom de spectacle, c'est-à-dire qu'il soit dans un théâtre qui est un théâtre d'art, c'est-à-dire un théâtre qui a un objectif autre que celui, enfin qui va plus loin que celui de plaire, qu'il ne soit pas simplement un théâtre de divertissement. Même si c'est un texte de fiction, d'abord on a la responsabilité par rapport à l'auteur qui l'a écrit, ne serait-ce que ça, mais on a la responsabilité politique de qu'est-ce que... Moi je n'ai jamais fait une seule minute de théâtre depuis 36 ans où je n'avais pas le sentiment d'une responsabilité politique. Donc de ce point de vue-là, là il y a des responsabilités peut-être en plus qui viennent se rajouter par rapport à la situation concrète à l'analyse concrète de la situation concrète. Et puis parce que ce sont des gens qui vivent encore et qui ont réellement prononcé ces paroles, et puis que c'est une chose lourde, dangereuse, qui peut être prise de travers, qui peut avoir l'effet exactement inverse que celui qu'on cherche. Enfin, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que cette responsabilité-là, comme acteur, si on l'a pas, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier ? C'est là que je reviens à ce que je disais à propos du narcissisme. C'est-à-dire que l'ennemi du théâtre, c'est le narcissisme. C'est-à-dire le fait de se faire passer soi avant le texte qu'on interprète.
Alors, une autre chose ici.
Je me disais que par rapport à cette responsabilité, par rapport à Arlequin, ces personnes-là, c'est que quand même porter la responsabilité d'un personnage fictif, donner vie à un personnage inventé, ou incarner une personne encore vivante, c'est quand même pas la même chose. La responsabilité doit, pour l'acteur, j'imagine, je suis pas actrice, mais j'imagine que jouer un personnage et jouer une personne qui pourrait encore assister à la représentation, ça doit peser différemment.
Ce que tu as énoncé du narcissisme et son contraire, des origines et non pas du destin, du désir de mémoire, etc., il semblerait comme ça, en vous écoutant, que il y a quelque chose d'un enjeu qui pourrait être ou qui pourrait apparaître ici comme plus important. Il semblerait. Du moins, pas, peut-être pas en soi, peut-être pas de façon théorique, mais dans ce qui peut être votre investissement en tant qu'acteur, en tant que traducteur. Ça m'a beaucoup fasciné, c'est 1800 heures. Ça m'a beaucoup. Il y a quelque chose comme ça de. C'est pas une affaire. Du coup, là, on n'est pas dans une affaire de spécialiste. Même certains diraient, mais comment se fait-il que vous êtes métier à traducteur, etc. Donc, le travail du désir et du savoir, comme ça, ou du non-savoir, comme ça, se met en marche. C'est cette sorte de contre-mouvement aussi que vous évoquez tout à l'heure à travers la pierre qui tombe et vous qui initiez quelque chose dont vous avez le sentiment que ça peut continuer, que ça peut faire son travail. Tout ça me questionne en même temps. Je ne saurais dire, évidemment, si, en termes de responsabilité ou jugement, là où tu tentes de mener dans cette question à cet instant T, que se passe-t-il ?
Alors, mais il me semble que, enfin, moi, si je puis me permettre, parce qu'en fait, le temps n'est pas éternel, pas seulement celui de cette séance, mais celui dont nous disposons à cette réflexion, je voudrais quand même
dire deux choses. Une est en forme de. Une est plutôt une prise de position, une prise de parti, et une est une question, vraiment. Parce que je crois que dans ce qu'on dit, là, il y a deux, même sur la responsabilité, j'y reviens, il y a deux niveaux. Il y a la responsabilité du théâtre, devant ce dont il parle, du théâtre en général. Hein, le traducteur, l'auteur, le producteur, l'écrivain, tout le monde. Donc l'acteur en tant qu'il fait partie de cet auteur. Là, moi, je voudrais dire un truc là-dessus. Et puis, il y a l'affaire de la responsabilité ou du jugement ou de la pensée de l'acteur pendant qu'il joue. Hein ? Question qui est tellement. Mais en fait, c'est bien parce que c'est la première fois qu'on en parle vraiment. Parce que dans ce que tu dis, dans ce que tu as dit, même si tu. Bon. Tu l'atténues après en un certain sens, mais bon, tu dis un truc, quoi. Sur le. Et Jean-François aussi, sur le fait de jouer dans ce rapport-là, comme si on jouait devant. Un peu devant celui que l'on joue, hein. C'est-à-dire il est comme ce que tu viens de dire, il est quelque part, quoi, il est là, quoi. Enfin, il y a peut pas dire ou faire n'importe quoi. Je sais pas comment dire. Bon, c'est... Alors, bon. Alors, moi d'abord sur le théâtre, la responsabilité partagée du théâtre en général. Je voudrais dire un truc. J'ai eu l'impression très forte en t'écoutant Bernard tout à l'heure que ça, évidemment, moi ça me caresse dans le sens du poil. Il faut pas que je me laisse trop faire parce que je n'ai que trop tendance à aller là. Que il y a, tu pointes une responsabilité politique et morale. De l'acte de jouer ou de faire du théâtre en général, pas seulement de jouer là, ce que je veux dire, mais de faire du théâtre, qui est responsable, on est responsable devant. Hein, donc tu es responsable devant qui quand tu fais ça. Hein. Alors tu l'as très bien dit, devant les personnes eux-mêmes d'abord, ensuite devant les invités, hein, ensuite devant les personnes qui vont l'entendre, qui sont pris dans un certain contexte. Bon, on a l'impression qu'on est responsable de ce qu'on fait. Hein, devant, c'est-à-dire. Excusez-moi, devant la vérité aussi, c'est-à-dire devant un certain rapport à la vérité. Hein, c'est-à-dire on a l'impression qu'il faut, il y a une réalité, il y a une effectivité de ce dont on parle. Ça a eu lieu, les gens sont là, ils l'ont dit, ils existent. On peut pas dire n'importe quoi par rapport à eux, etc. Bon, ça c'est une responsabilité qui n'est probablement pas réservée au théâtre documentaire, mais que ce théâtre-là nous rappelle de façon particulièrement aiguë. Non pas parce qu'il en a l'exclusivité, mais parce que par ailleurs, ça peut s'oublier. Pourquoi ça s'oublierait ? Parce qu'il y a un autre type de responsabilité qu'on peut avoir quand on fait du théâtre, c'est la responsabilité devant, non pas le vrai, mais devant le beau. La responsabilité esthétique, quoi. C'est-à-dire, on assume parce que c'est beau, plutôt qu'on assume parce que c'est vrai, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression, pour dire clairement ce que je pense, qu'en gros... On est dans une période où, en gros, la responsabilité devant le beau, ou le supposé beau, a pris le pas sur tout, quoi. C'est-à-dire que l'esthétisation a pris le pas sur tout, et que l'esthétisation a mangé le rapport du théâtre à la vérité, à la morale, à la politique, à plein de choses. Je suis persuadé que Villard, montant la paix d'Aristophane, si tu veux, avait, au risque de faire casser son théâtre, de se faire casser la gueule, de se prendre un attentat de la Haute-Doaès, etc., avait quand même le sentiment d'une certaine responsabilité du geste théâtral, même s'il s'agissait de la paix d'Aristophane. Donc, il faut dire un truc là-dessus, sur la comédie. Parce que je rappelle au passage, comme ça j'oublierai, que la comédie grecque parle des personnes avec leur nom, hein, en les appelant par leur nom et des vivants, hein, et parfois même de façon assez crapuleuse, de façon assez ignoble. Mais enfin, elle en parle par leur nom. Enfin, bon, très bien, je passe. Mais c'est pour dire que il n'est pas impossible que ce que ça me donne à penser quand je t'écoute, hein, alors c'est pas dire qu'on ne peut le faire que comme ça, c'est pas dire que le théâtre documentaire en aurait l'exclusivité, mais ça veut dire que quand même. Ça, le fait de pratiquer comme ça rappelle le théâtre à quelque chose, si tu veux, qui n'est pas forcément monnaie courante. Enfin, moi, j'ai l'impression que l'esthétisation a mangé le rapport c'est ma conviction, hein, c'est mon impression, a mangé le rapport au juste, au vrai, au réel, tu vois. Là encore, en disant ça, je ne dis pas qu'il faut se dispenser de tout rapport à l'esthétique ou à la beauté, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire qu'il y a un phénomène plutôt d'esthétisation généralisée, d'esthétisation intégrale, la responsabilité esthétique devient le seul fait. Tu vois, quand ce rapport-là aurait, à mes yeux, je pense ça, hein, j'aurais tendance à dire ça, le jugement esthétique a mangé le jugement pratique, le jugement moral, enfin. C'est l'état des lieux pour moi. Hein. C'est-à-dire c'est la troisième critique de Kant à manger les deux autres. Il n'y en a plus. Ce serait pour dire ça. C'est une thèse. Hein. C'est une hypothèse extrêmement brutale, extrêmement fausse, comme toute thèse qui se respecte, extrêmement abrupte comme ça et méchante. Mais c'est une thèse. C'est-à-dire, tu ne te demandes pas seulement quand tu joues Wiesenthal, est-ce que c'est beau, quoi. Est-ce que je suis bon acteur? Est-ce que je suis bien? Est-ce que ça va me plaire? C'est ce que je veux dire quand on parle de narcissisme. Oui, c'est ça. Narcissisme, c'est la même chose. Hein. Narcissisme, c'est la contemplation de l'image, le monde d'image de soi, mais c'est la même chose. Hein. À un moment donné, tu te dis, on a l'impression que vous vous dites les uns les autres, on le sent, parce que pour dire à ceux qui ne l'ont pas vu, le spectacle dans lequel vous jouez est d'une extrême tenue ou tension éthique comme ça, hein. On sent bien que vous ne vous autorisez rien, c'est un peu ce qui était derrière, vous ne vous autorisez aucune, ce que vous avez appelé le conforme, aucune facilité, aucune, voilà, vous avez une tension comme ça extrême. Bon, bien, voilà, c'est une thèse, une hypothèse que je propose, c'est-à-dire dire, est-ce que ce théâtre-là, n'a pas en ce moment pour fonction, en quelque sorte, de nous rappeler. Bon, alors c'est l'affaire de Rwanda 94, c'est l'affaire de spectacle sur Sofri, c'est d'autres affaires que moi, d'ailleurs, dans un autre champ, j'ai éprouvé d'une autre façon, mais c'est la même affaire, hein. Non plus la responsabilité, mais la même affaire de responsabilité éthique. Parce que l'individu que vous voyez là, Hervé Loachmol, a monté un spectacle documentaire. C'est un documentaire qu'il ne mentionne jamais, bien sûr. Où il y avait le même Agoumi qui jouait le rôle d'un personnage vivant, c'est-à-dire de moi. Hein, puisque le même comédien algérien.
Il y en a un autre, oui. Il y en a un autre que toi tu as vu. Je pensais que tu faisais allusion à ça, c'était l'interrogatoire de Brecht.
Ah oui, bien sûr, ça c'était complètement ça, oui, bien sûr. Oui. Non, mais je veux parler, alors là on sort. Je parle du fait que Agoumi jouait un rôle. Moi je me suis trouvé dans la situation bizarre d'aller voir un spectacle où il y avait un comédien algérien. Qui jouait mon rôle, le rôle de quelqu'un qui s'appelait Denis Guénon, quoi. Et c'est une expérience forte et très très intéressante. Et oui, il est question d'un certain rapport à la politique ou à la morale de l'histoire, quoi. La morale du fait de représenter, l'éthique du fait de représenter. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Bon, voilà. Deuxièmement, par rapport à l'acteur. Dans quelle mesure l'acteur est concerné par ce jugement? Alors ça, c'est très compliqué. Hein, dans quelle mesure il a à exercer ce jugement dans le jeu? Dans le jeu. Hein, c'est une affaire autour de laquelle on tourne depuis un certain temps. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas de réponse du tout. Mais je crois quand même que... Je crois quand même que l'idée brechtienne est quelque chose qui s'est... perdu avec l'éloignement de Brecht, c'est que l'acteur exerce une certaine responsabilité devant ce qu'il joue, hein, devant ce qu'il joue. C'est-à-dire, alors évidemment, ça suppose un écartement de soi, hein, comme le mystère des textes hein, de l'acteur brechtien, c'est qu'il est à la fois, qu'il est toujours un peu à distance de ce qu'il montre, hein, et que donc il n'est pas dans ce qu'il montre et qu'il le montre, enfin, comme ça par cœur, certains mieux que moi, donc il est à distance de ce qu'il montre. Donc, il ne s'agit pas, en effet, de ce... C'est-à-dire, le paradoxe, moi j'ai l'impression, depuis auquel on tourne déjà, ça, il en avait été question déjà de ça avec... à plusieurs reprises, il en a été question, quoi. Il a été question dans une discussion avec Joris Lacoste, au moment où on a, après la discussion sur le théâtre des Jésuites, il en a été question après avec Thomas Richards, enfin... J'ai l'impression, si vous voulez, que si jugement de l'acteur il y a, je ne suis pas sûr, hein, et si l'acteur exerce sa faculté de juger au moment où il joue, c'est pas au sens d'une unification dans l'acte de juger, hein, c'est au contraire au sens d'une dissociation. C'est-à-dire qu'il fait deux choses à la fois. Quoi. Ce qu'on peut déplorer, on peut dire, alors, ce que tu disais, le vieux brechtien que tu es s'est fait prendre à son propre jeu, mais tu peux pas faire ça et ça en même temps, tu vois, tu dis, si tu te mets à penser à Auschwitz en même temps que tu te mets à penser tu joues plus, mais est-ce qu'au fond, là, ce que demande Brecht à l'acteur, c'est pas toujours ça, c'est-à-dire de faire deux choses à la fois, c'est-à-dire de montrer et de montrer qu'il montre, enfin, c'est-à-dire de faire et de montrer qu'il fait, d'être à la fois dans le fait de le faire et dans le fait de le montrer, je sais pas, je dis pas qu'il a raison, c'est bien, mais c'est une question que je me pose. Est-ce que cette dissociation, cette distanciation intérieure, cet écart interne de l'acteur, bon, qui nous apparaît aujourd'hui qui nous apparaîtrait plutôt comme quelque chose de regrettable, enfin, tu vois, on a l'impression que c'est, je ne sais, ou bien parce que l'authenticité se perdrait, ou bien parce que la concentration se perdrait, ou bien parce que la... Est-ce qu'au fond, il n'y a pas l'acteur montreur, l'acteur manipulateur, je dis ça à la direction de... Sylvie qui, entre autres choses, travaille beaucoup sur la question des marionnettes, l'acteur qui montre, enfin, tu vois, qui fait deux choses, enfin, est-ce que cette dissociation interne n'est pas celle qui est nécessaire pour qu'il y ait jugement, s'il y a jugement, hein? Et au fond, est-ce que... Tout ça est lié quand même, parce que l'acteur, si les brechtiens, dans ce qu'il y a eu de meilleur, de plus fort, de plus généreux dans le brechtisme, ont pu croire... Et nous sommes quelques-uns à l'avoir cru profondément dans la... Non pas parce qu'on avait lu Brecht, mais parce que c'était dans... Vraiment, on le pensait très profondément. Si on a pensé que l'acteur était une personnalité sociale, était lui-même un exercice social, une activité sociale d'une, d'une richesse neuve, quoi, comme ça, c'est parce que il faisait ça, quoi. C'est-à-dire, il jouait, et en même temps, il exerçait son jugement sur ce qu'il jouait. Et en même temps, et donc, du coup, il pouvait aller dans la société, il pouvait parler, il pouvait avoir exercé une responsabilité sociale, en tant qu'acteur, pas en tant que... Donc voilà, donc moi j'ai tendance à penser que, personnellement, que le... Il y a quelque chose de ce que... Mais ça c'est très personnel, hein, c'est ce que j'espère, ou que je désire, ou que j'attends du théâtre, qui passerait aussi par là. C'est-à-dire qui passerait aussi par ce regain du côté de la dissociation de l'acteur, de la désesthétisation, du fait que l'esthétique n'est plus l'hégémonie sur le jeu de l'acteur, que ça, l'affaire esthétique ne soit plus l'affaire qui est la domination sur la conduite de l'acteur, et que du coup, enfin, moi, j'y crois fort. D'ailleurs, je voulais te dire, Bernard, c'était presque une question extrêmement anecdotique que j'avais envie de te poser au tout début. Est-ce que de ce point de vue, c'est pas pour être oiseau de mauvais augure, hein, en aucune façon, est-ce que de ce point de vue, passer de la cartoucherie à la maison de la poésie, c'est pas un peu douloureux? Est-ce que c'est pas douloureux? C'est-à-dire, du point de vue du statut du discours, quoi.
Ah non, je peux te dire de quel point de vue c'est douloureux. Ça me donne à penser beaucoup de choses que tu viens de dire. Enfin, ça me permet de préciser beaucoup de choses. Et une chose qui est claire, c'est qu'en tout cas, à la cartoucherie, chez Ariane Mouchkine, on était vraiment dans un des derniers lieux où la question du beau et de l'utile se pose en même temps. Parce que c'est bien la question, c'est que on est complètement à contre-courant quand on pose la question de l'utilité en même temps que celle de la beauté. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est pas utile ne peut pas être beau. Elle m'emmerde. Alors, ce qui est utile n'est pas forcément beau, mais c'est mieux quand c'est les deux. Mais en tout cas, ce qui est inutile, pour moi, ça ne peut pas être beau. Alors l'utilité, ça, elle peut être multiple, hein. Ça peut être de passer une bonne soirée à rigoler, mais à rigoler utilement. Enfin bon, tu vois bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire c'est l'esthétique vide, c'est la médiatisation, la vedettarisation, les gens qui viennent pour voir l'acteur qu'ils ont vu à la télé et qui regardent la télé pour voir en vrai ce qu'ils voient au cinéma, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien, qu'il n'a plus rien à voir, qu'il y a de la consommation, qu'il n'a plus rien à voir avec quelque transmission que ce soit. Alors effectivement, le théâtre du Soleil, c'est le lieu de la beauté et de l'utilité mélangée, qu'elle réussisse ou qu'elle rate, c'est peu importe. Ici, c'est la maison de la poésie quand même. C'est là qu'on est venu. On est venu à la maison de la poésie, c'est-à-dire où justement il s'agit de donner à être de poèmes, quoi. Et la maison en elle-même est absolument idoine, surtout quand on connaît l'histoire de cette maison. C'était le haut lieu des tailleurs juifs dans les années 20 et 30, cet immeuble. Le père de Corinne Atlas, je ne sais pas si tu connais Corinne Atlas, une amie à moi, bah, il est arrivé là en 1920, en venant de Pologne. Ils habitaient tous là, dans cette maison-là. Après, le problème, c'est les gens qui sont dans cette maison. Je ne parle pas du nouveau directeur, mais des gens qui sont là depuis longtemps et de la manière dont fonctionne ou ne fonctionne pas cette maison. Ça, c'est autre chose. Mais je voudrais dire autre chose, bien sûr. D'abord, c'est l'effet de distanciation brechtienne. Effectivement, c'est Brecht qui disait que le premier, l'acteur est un intellectuel et un homme politique quand il joue. C'est-à-dire, c'est un militant politique, c'est-à-dire qu'il doit avoir un point de vue sur ce qu'il joue. Il ne doit pas simplement interpréter, il doit avoir un point de vue sur ce qu'il interprète. Il doit savoir pourquoi il dit ce qu'il dit, dans quel but, même si le but peut être... Mais l'effet en allemand, le Verfremdungseffekt, c'est pas tellement un effet de distanciation, c'est un effet d'étrangeté, de mise, de mettre, de considérer sa propre étrangeté et l'étrangeté de l'autre. C'est-à-dire de se poser en permanence la question de « je suis et je suis aussi l'autre, je suis un autre enfin, ». D'être en permanence dans cette question-là. Alors je voudrais juste vous raconter une anecdote. Il n'y a pas longtemps, à Choisy-le-Roi, pendant que je jouais Wiesenthal, et je pense que vous ne pouvez pas savoir le nombre de lapsus qu'on fait dans ce spectacle. Et c'est jamais... Et alors, dans un truc pareil, les lapsus, ça vaut la son pesant de cacahuète. Paul Alliot, je te donne un exemple, c'était à Rungis, parce qu'on a joué à Rungis la semaine dernière. Paul Alliot dit à un moment, il joue Arthur Brauner, il dit, parce que lui c'est un sioniste Likoud, enfin pas Paul Alliot, mais Arthur Brauner, il dit, parce que l'intervieweuse lui demande, mais alors, vous ne trouvez pas que ce que vous dites là après la guerre des six jours, parce qu'il dit que depuis la guerre des six jours, tout le monde respecte Israël, aime Israël, parce qu'on aime l'effort. Et la compassion, ça n'a jamais sauvé personne. La compassion, c'est une façon de se faire écraser encore plus. Quand elle lui pose cette question, elle lui dit, vous pensez pas que c'est un peu plus compliqué le point de vue du monde par rapport à Israël depuis la guerre des six jours? Il dit, oui, c'est ça. C'est parce qu'on demande à Israël d'être plus moral que les autres, comme si les Anglais et les Américains avaient été moraux quand ils ont bombardé Dresde et Hambourg en ne se préoccupant pas des trains qui, des voies ferrées qui allaient à Auschwitz et à Treblinka. Et au lieu de dire à Auschwitz et Treblinka, il a dit qu'il allait à Auschwitz et à Hiroshima. Et donc on imaginait, et il l'a dit, et c'était irrattrapable, hein, et donc on imaginait donc un train qui allait à Auschwitz directement à Hiroshima. C'était à Choisy-le-Roi, il y a trois semaines, j'ai fait, alors là c'était pas un lapsus, c'était un trou. Et c'est toujours dans Wiesenthal que j'ai des trous, mais des trous intégraux. Ça fait quand même 80 fois qu'on joue, hein. Et c'est souvent à peu près à cet endroit-là, et c'est quand Hélène Minerola, qui joue la questionneuse, me demande comment avez-vous pu trouver la force de consacrer votre vie à pourchasser les criminels nazis. Et à Choisy, je ne savais plus comment j'avais trouvé la force. Je ne savais absolument plus. Et la réponse est, on m'a souvent dit que j'avais, pour ainsi dire, volontairement rallongé mon temps de déportation en continuant de vivre aujourd'hui dans le sang et les larmes. Et je ne savais plus. Et elle ne pouvait pas m'aider. Elle ne pouvait pas là me le dire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là, le trou total. Elle ne pouvait pas enchaîner. Parce que la question suivante, c'est comment êtes-vous parvenu à surmonter cette haine? Et elle ne pouvait pas me poser cette question si je ne répondais pas à la première. Et donc j'ai dit, il y a eu un temps de silence, et puis j'ai dit, et puis j'ai pris la même position qu'il a là sur la. J'ai pensé à cette position, puis j'ai étalé avec la main comme ça, et j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ai dit trois fois. Et du coup, elle a pu me poser la question de comment avez-vous pu surmonter cette haine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là? Pour ne pas vouloir répondre à cette question-là, de pourquoi ce type a consacré sa vie à pourchasser les criminels nazis, a renoncé à son métier, il était architecte, a renoncé à tout. À tout ce qui est censé faire... a passé 60 ans de sa vie à faire ça, et à en chier, et à se battre contre tout le monde, et à être tout seul, et à être méprisé, attaqué très violemment. Parce que Wiesenthal n'est devenu un héros international que bien tard, qu'après le procès, que bien après le procès Eichmann, que dans les années 80. C'est là qu'on a commencé à parler de l'Holocauste. On n'en parlait pas. C'était des pestiférés, les rescapés des camps de concentration. On ne voulait pas les écouter. On a tendance à l'oublier maintenant, mais ça fait 20 ans que les bouches s'ouvrent. Donc voilà. C'est juste une anecdote qui fait qu'il y a quelque chose de l'inconscient qui se met en branle dans cet effet d'être double. C'est pas forcément de faire deux choses en même temps, mais d'être deux, quoi.
Non, mais il me semblait que, tout à l'heure, tu posais la question de... On pose la question de deux. Qu'on parle de deux choses différentes. Si on parle du comédien dans son rapport à lui-même, ou si on parle du comédien dans son rapport au social, voire du comédien au référent, effectivement, quand ou du comédien ou de l'artiste au référent, quand on s'est beaucoup dit ça avec Michel, on pouvait pas le faire dire n'importe quoi, Sofri, il est vivant, en plus on l'avait rencontré, tu peux pas lui faire dire des conneries, ça c'est pas possible, bon. Donc là, ça demande une responsabilité. Enfin, une responsabilité, en tout cas, disons, une probité, en tout cas, un rapport au référent qui soit très, très, disons, juste. Juste, hein, bon. Mais moi, je crois que le théâtre, l'art, mais le théâtre, hein, a à faire avec la justice. Il faut jouer juste, c'est être juste. Il y a, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de... Donc là-dessus, je... Tu as eu cette expérience avec le théâtre, mais moi, je n'en ai pas eu une autre depuis 35... Enfin, à peu près la même truc. Enfin, le théâtre, c'est une affaire de justice. Il faut être juste avec les mots et avec les choses. On n'en sort pas. Alors. La question ne se pose pas en termes de faire plaisir ou de... Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question comme ça. Mais... Pour revenir au sujet, c'est le cas de le dire, ou bien on parle du comédien dans son rapport à lui-même au moment où il joue. À partir de là, on pose des problèmes d'identité, de narcissisme, d'autonomie, et donc d'un tiers. Parce que on oublie quand même dans le narcissisme, moi, il y avait quelque chose de très négatif dans ce que vous, dans votre façon d'aborder la question du narcissisme. Enfin, le narcissisme, c'est quand même tout à fait essentiel à la constitution du sujet. Il n'y a pas de sujet qui n'ait pas une image de lui-même. Ça n'existe pas. Il est mort. On est structuré. Pardon ?
C'est juste une question de curseur.
Oui, non. Non, mais on a pris l'habitude de faire la peau au narcissisme, mais heureusement qu'on en a un chacun. Si on n'a pas une image, un peu de soi. Bon. Or, cette image, elle est structurée par un tiers. Et de cela non plus, on ne peut pas sortir. À partir de ce moment-là, si on parle de la distanciation, on est obligé de rentrer donc dans le rapport du sujet à lui-même. Or, ce sujet à lui-même, il est tout à la fois dans une image de lui-même et dans un rapport à cette image qui est traversée par les tiers. Le regard des autres, les parents, celui du metteur en scène pour un comédien, du spectateur, etc. Mais disons que j'ai l'impression qu'il y a ça... pour le comédien, et puis il y a sa responsabilité d'ordre moral ou politique, etc., ou artistique, mais qui suppose une hétéronomie, une extériorité. Enfin, je ne sais pas si c'est confus ce que je raconte. Non,
là, il y a une affaire qu'il faudrait approfondir, mais ça c'est programmatique, hein. Qu'il faudrait approfondir en termes, en effet, presque en termes freudiens ou lacaniens, moi je suis très d'accord avec ça.
Il faudrait aller beaucoup plus loin. Alors c'est un programme, c'est peut-être d'ailleurs c'est une chose qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait au moins aborder en partie dans la suite des opérations. Parce que bon, d'abord sur le narcissisme, si tu veux, je crois qu'il y a les deux aspects. Je crois que tu as raison, et puis qu'en même temps, Bernard avait raison. C'est-à-dire que, bon, c'est pour ça peut-être que Freud fait la différence entre un narcissisme primaire et un narcissisme secondaire. Mais en tout cas, le narcissisme, c'est pas le fait, à mon avis, c'est sans doute pas seulement le fait d'avoir une image, ni même de la. C'est le fait de la contempler. C'est-à-dire la contempler et de s'y engloutir et donc d'y mourir aussi. Parce que le narcissisme, c'est mortel. C'est-à-dire quand tu regardes l'image de toi, et que tu là, tu y meurs. Sinon, c'est pas l'image de narcissisme qui aurait prévalu pour désigner ça. Et donc voilà, ça c'est la première chose que je veux dire. Il y a une affaire comme ça avec le, mais il y a une autre affaire qui est l'affaire du réel. Et là, il faudrait peut-être, je sais pas, c'est peut-être il y a peut-être une affaire lacanienne ou freudo-lacanienne qui sur laquelle il serait bon de s'interroger à nouveau. Moi, pour moi, l'acquis de la discussion d'aujourd'hui. Avec les uns et les autres, avec Bernard en particulier, mais avec l'acquis de la discussion aujourd'hui, enfin, quelque chose que je crois entrevoir aujourd'hui, que je n'ai jamais vu avec cette clarté, et qui est sans doute, c'est que quelque chose nous arrive avec ce que vous appelez Vous avez appelé théâtre documentaire avec ce que les uns et les autres vous avez pratiqué, vous avez prouvé le besoin de pratiquer, chacun avec ses instruments, hein, et avec lesquels vous avez eu besoin de, dans lesquels vous avez eu besoin d'aller. C'est que le théâtre est devant ce dont il parle. Voilà, qu'il a quelque chose devant ce dont il parle. Il est, tu sais, c'est une phrase. Il y a des mots de Deleuze très forts sur où il reprend une expression d'Artaud où il parle d'être devant, qu'on avait cité à plusieurs reprises. Voilà, c'est-à-dire d'être devant ce dont il parle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous étiez convoqué à une certaine... Alors, je ne sais pas, le mot responsabilité, il est très bien, moi, il me convient très bien, mais bon, on ne va pas le mettre comme ça, le répéter de façon comme une litanie. Devant le fait de dire quelque chose, de montrer quelque chose, d'énoncer quelque chose sur ce qu'on dit. Il y a une dignité, il y a une force du théâtre dans cet acte-là que le théâtre peut perdre, voilà. Que le théâtre peut perdre. Moi, je pense que pour, tu vois, il peut le perdre. Et donc, c'est pas toujours, le théâtre n'est pas toujours comme ça. Il peut le perdre et que probablement, pour des raisons qui ne sont pas des raisons qui viennent des gens de théâtre, hein, mais qui sont des raisons historiques ou historiales, qu'il peut y avoir un dessaisissement, au sens où on dit dessaisissement, dessaisir une instance, tu vois, il peut y avoir un dessaisissement de ça, tu vois. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui cherchent, chacun à sa façon, à retrouver ça, il y a une part du désir de théâtre qui est... Et si c'est vrai, alors ça fait peut-être le rapport entre les deux choses que tu dis, parce que peut-être que, si c'est vrai, peut-être qu'une des raisons qui pousse à vouloir jouer, à vouloir être acteur, donc dans le rapport à soi, c'est de plus être seulement dans le rapport à son image, mais d'être dans ce devant, d'être dans le devant quelque chose qui est extérieur, et de quoi et devant quoi on est convoqué à répondre, tu vois. C'est-à-dire, moi je ferais bien le rapport entre ces deux aspects. Parce que le comédien, dans son rapport à lui-même, il est convoqué aussi à être devant quelque chose d'extérieur. Alors c'est très mal dit et c'est très fuyant, hein, comme ça, comme je le dis, c'est très fuyant. Mais je suis frappé, si je ne sais plus ce que je dis là, j'ai qu'à me rappeler l'expérience que vous faites. Pas pour la poser en modèle absolu, hein, pas pour dire il faut faire du théâtre comme ça ou que comme ça ou que de cette façon-là. Après, on peut dire mille choses sur les façons de faire, hein, que les uns et les autres ont, et c'est très... Mais c'est dire, voilà, il y a cette... au fond, en jouant qu'Arlequin, il faudrait arriver à se poser cette question-là. Quoi. C'est-à-dire, par exemple, on travaille beaucoup dans d'autres contextes en ce moment... sur Jean-Luc Lagarce que Bernard a très 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 bien connu et avec lequel il a beaucoup travaillé, enfin en tout cas en des circonstances marquantes, très marquantes. Et il me semble que quand on regarde ce que je suis en train de faire en ce moment pour le colloque qu'on est en train d'organiser, l'évolution de la vie du théâtre de cet homme, je ne sais pas, que moi je n'ai pas connu, hein, que je ne connais que par les textes, ben, on voit une évolution qui progressivement le conduit de plus en plus à ça. Alors pour des raisons très bonne, et puis pour des raisons très tristes aussi, probablement par un rapport à la maladie. Je voulais dire une chose tout à l'heure que je n'ai pas dite parce que j'ai oublié, pas parce que j'ai... Mais je voulais dire, vous savez, quand on parle de responsabilité devant les vivants, tu ne veux pas couper le micro? Oui, coupe le micro. le temps, les deux heures, alors que nous avons encore beaucoup de choses à discuter. Alors je voudrais dire d'une part le spectacle dont nous avons parlé se joue jusqu'au début avril, jusqu'au 7 avril, c'est ça. D'autre part que Bernard va participer à plusieurs discussions encore qui vont se faire dans des cadres voisins de celui-ci, seul et accompagné, une discussion en Sorbonne. Il y a des échanges, je sais, à la Maison de la Poésie. Il y a le 26 mars, il y a à la Salle des Actes en Sorbonne une discussion avec Bernard sur le spectacle et d'autres, peut-être d'autres membres de l'équipe. Et puis, en ce qui concerne notre affaire ici, eh bien, je voudrais dire que nous allons continuer comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, je voulais te remercier particulièrement, Bernard, et puis d'avoir fait ça. Et puis, à vous tous aussi, parce qu'il me semble que quand même, on a cette séance n'était pas la moins active ni la moins productive, loin de là, sur la question précise que nous avons à nous poser, justement parce que tu nous as conduit à la poser à partir d'un point de vue qu'on n'aurait pas pensé au départ. Tu vois. J'aurais pas pensé, pour poser cette question du jeu, à cette question du jugement de l'acteur dans le jeu. C'est venu dans une discussion que nous avons eue tous les deux, un jour à table, on a pensé à la poser comme ça à cette occasion. Je n'aurais pas pensé à poser cette question du jugement dans le jeu à partir de l'affaire de ce rapport à la vérité des faits, à la vérité historique des faits, documentaire, au document. Et pourtant, ça éclaire d'une façon particulière la question qu'on s'est posée. Je ne dis pas que c'est la réponse définitive, hein, mais ça l'éclaire quand même. Et ça, c'est très précieux. Donc, merci beaucoup. Voilà.
Juste une question, si vous voulez de ma part, vous pouvez avoir les places à 10 euros.